Nous sommes le jeudi 2 septembre. Bon réveil, bonne journée. Europe 1, il est 7h.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Et voici le journal. Nous sommes le jeudi 2 septembre, donc c'est l'heure de la rentrée des classes. 12 millions d'élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école, rentrée sous Covid. Alors le protocole sanitaire est-il la parade aux fermetures de classes? Nous irons voir ce qui se passe depuis 15 jours à La Réunion, où les mêmes règles s'appliquent. Vous allez voir, le bilan est plutôt mitigé. Emmanuel Macron, lui, est toujours à Marseille. Le président met l'accent sur la sécurité. Le jour d'après, également en Afghanistan, les talibans sont désormais maîtres du pays, à Kaboul. Vous l'entendrez, les opposants au régime se cache pour éviter les représailles. Et puis, nous parlerons aussi de football. L'équipe de France, accrochée hier soir par la Bosnie, match nul, un partout, en match de qualification pour le Mondial 2022. Le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri. Il est l'heure d'aller à l'école. Voilà le genre de phrase que les élèves vont à nouveau entendre à partir d'aujourd'hui. N'oublie pas ton masque sera aussi l'autre injonction du moment. Deuxième rentrée sous Covid avec un protocole strict et une nouveauté, la vaccination des adolescents de plus de 12 ans. L'objectif étant de limiter la circulation du virus pour éviter à la fois une reprise de l'épidémie et une fermeture de classe.
Alors ce protocole est de niveau 2 sur une échelle de 4. On a voulu voir ce matin s'il fonctionnait. Et pour ça, il faut aller du côté de La Réunion.
Où la rentrée scolaire s'est effectuée avec 15 jours d'avance sur la métropole. Et pour l'instant, le retour des élèves n'a pas fait exploser le taux d'incidence, ce qui faisait dire au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que tout se passait comme prévu, c'est-à-dire bien.
L'île de La Réunion est déjà entrée en classe depuis 2 semaines, avec une situation épidémique comparable à la situation de la métropole. Les choses se passent assez bien, avec moins de 0,2% des classes qui sont fermées.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, fait le pari d'une rentrée normale à La Réunion, mais dans les faits, il y a quand même des choses qui coincent, voire qui inquiètent. Reportage sur place de Charles Huillet.
Dans cette école de Saint-Denis, on ne plaisante pas depuis 2 semaines. Les 400 élèves suivent un protocole bien précis. Mia, en CM1, a déjà pris le pli.
Avant de monter en classe, on se lave les mains. Après, dans la classe, on doit porter le masque. Avant d'aller en récréation, on va se laver les mains. Après, dans la cantine, les copines des autres classes n'ont pas le droit de se mettre à la même place que nous.
Méthode efficace, mais qui n'a pas fait de miracle face au cluster ici. Dans les zones les plus touchées, on a dû fermer des classes. Une cinquantaine dès la première semaine, 80 durant la seconde. À peine 1% du total, mais c'est quand même la galère pour André. Son fils, en CE2, n'a eu cours que 5 jours depuis la rentrée. La faute à 2 fermetures déjà.
3 jours après la rentrée, on a eu un message, il ne faut pas l'envoyer à l'école. Et deuxième fois, on a eu la surprise que la classe est fermée pendant 7 jours. Ça ne va pas être facile de rattraper tout ça.
Alors pour éviter l'emballement, des vaccinodromes éphémères ont été installés dans 2 lycées. Problème, pour l'instant, seuls 300 élèves sur les 2000 éligibles ont franchi le pas.
Elle est vide la salle, tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui fait.
Moi je ne vais pas le faire en tout cas. Et il y a beaucoup de parents qui sont contre aussi.
Je m'en fou du vaccin. Ils m'ont donné un papier. J'ai jeté le papier parce que ça m'intéresse pas.
Une défiance vaccinale chez les jeunes qui ne rassure pas le rectorat. Car l'an dernier, l'école à la maison ici a provoqué un taux de décrochage 5 fois plus important qu'en métropole.
Un reportage de Charles L'Huillier, journaliste pour la Radio Freedom, partenaire d'Europe 1. La visite d'Emmanuel Macron à Marseille avec une première étape dans les quartiers nord de la ville et un premier thème, celui de la sécurité dans une ville et un quartier secoué par les règlements de compte liés le plus souvent au trafic de drogue. Le président de la République qui a fustigé les consommateurs complices des dealers. Quant aux policiers, ils ont reçu la promesse de moyens supplémentaires. Récit de cette première journée, Stéphane Burgat.
Un plan à 150 millions d'euros dans la cour du commissariat de la division Nord. Le président annonce d'importants moyens matériels et l'accélération du calendrier des renforts déjà promis par Gérald Darmanin, tout en saluant l'action des forces de l'ordre.
Je considère que notre rôle avec le gouvernement, c'est de vous aider chaque matin à retrouver le sens du métier que vous avez choisi et de votre vocation. C'est un engagement d'être policier.
Emmanuel Macron est allé également à la rencontre d'habitants d'une cité défavorisée, où il a été interpellé sur les difficultés du quotidien.
Sans votre venue à l'heure actuelle, on n'existerait pas et puis on ne verrait pas. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est quoi l'avenir pour les jeunes qui essayent de s'en sortir? Quelle est la solution pour nous aujourd'hui? Quelle est la solution?
Le président qui a également rencontré des élus locaux pour les mettre face à leurs responsabilités et poser ses conditions, selon la sénatrice socialiste Marie-Arlette Carlotti.
Et effectivement, il a rappelé peut-être une période où il y avait un premier comité interministériel sur Marseille qui avait été lancé annoncé par Jean-Marc Ayrault et où les élus locaux n'avaient pas réagi, pas porté les projets.
Emmanuel Macron, qui se rendra ce matin dans un groupe scolaire à l'occasion de la rentrée des classes, avant de dévoiler cet après-midi son grand plan pour la ville. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Alors, était-ce un déplacement de président ou de candidat? En tout cas, il est très critiqué par Jean-Luc Mélenchon, qui voit un président en campagne pour sa réélection en 2022. Et qui dit campagne, dit sondage. Une nouvelle enquête donne ce matin Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête du premier tour.
Sondage Harris Interactif pour le magazine Challenge. Et le chef de l'État sortirait vainqueur du premier tour, quels que soient les candidats qui se présenteraient à droite comme à gauche. Et parmi les prétendants à l'Élysée, les positions se resserrent entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Deux points les séparent désormais. À gauche, le candidat Mélenchon réunirait 12% des voix au premier tour. Anne Hidalgo recueillerait 7% des suffrages. Pendant ce temps, le Premier ministre poursuit sa série de consultations avec les partenaires sociaux. Il s'agit de prendre la température sur une série de dossiers comme la réforme des retraites. Ambition aussitôt contrariée par Force ouvrière et la CFDT, pour qui cela n'a pas de sens. Ce sera au tour de la CGT d'être reçu aujourd'hui.
L'actualité internationale maintenant en Afghanistan. Le retrait américain a laissé le champ libre aux talibans qui font régner la terreur chez leurs opposants.
Ils sont et elles sont la cible privilégiée. Il y a ceux qui sont restés sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul et sont soupçonnés de collaboration avec les Américains et leurs alliés. Il y a celles qui se sont émancipées et refusent désormais de rentrer dans le rang. Dans tous les cas, c'est un régime de terreur qui leur est réservé. Reportage de Marc Gobain, envoyé spécial en Afghanistan.
Il y a encore deux semaines, Nargis était une jeune femme épanouie, organisant colloques et réunions avec un groupe d'activistes féministes. Le jour où les talibans se sont emparés de Kaboul, elle a commencé à recevoir des flots de menaces sur son téléphone, l'accusant de débauche.
On t'a vu à la télévision, on t'a vu afficher des photos de toi. Tu as pris ces photos avec cette chanteuse débauchée, Ariana Saïd. Ton père, ton frère t'ont permis de faire ça? On t'a à l'œil.
Et puis, il y a environ une semaine, les talibans sont venus fouiller sa maison.
Quand ils sont entrés chez nous, ça a été horrible pour moi. Le soir même, j'ai quitté la maison de mes parents. L'une de mes amies tient un magasin, il était vide, j'y suis restée 3 jours et 3 nuits. Dans ce petit local désaffecté, j'avais juste un matelas. Vivre dans son pays, c'est la chose la plus importante pour n'importe qui. J'aime mon pays, mais les talibans sont inhumains. Ceux qui ont des connaissances, nos vies, notre avenir, ça ne compte pas pour eux. On ne vaut rien pour eux.
Puis, elle entend parler d'un avion privé qui pourrait décoller sous peu du nord du pays, pour évacuer des Afghans vers un pays inconnu. Dissimulée sous une burqa, Nargis monte dans un bus, la peur au ventre. Depuis, elle loge chez des amis d'amis, espérant que l'avion providentiel l'amènera bientôt loin de là.
Margot Ben, envoyée spéciale en Afghanistan. Aux États-Unis, l'état d'urgence est décrété dans l'état de New York. Ce que vous entendez là, Dimitri, c'est un extrait d'une vidéo tournée par un habitant. Des trombes d'eau s'abattent sur la ville de New York et provoquent d'importantes inondations, conséquence du passage de la tempête Ida. Point complet et détaillé avec notre correspondant à New York.
Impressionnant.
Ouais, dans le journal de 8 heures.
Retour en France, la SNCF profite du retour au télétravail des salariés pour lancer son offre d'abonnement télétravail.
Ah oui, la compagnie prend acte de la raréfaction de la clientèle d'affaires, celle qui voyage en première classe. L'abonnement télétravail propose 40% de réduction par rapport à un abonnement classique. La formule donne droit à 250 trajets par an à effectuer entre le lundi et le jeudi.
Autant qu'on veut par semaine, hein, c'est ça.
Oui.
C'est 250 et on l'utilise comme on veut. Intéressant. Le football pour terminer, et 2 mois après la déception de l'Euro, les Bleus n'ont pas convaincu hier soir face à la Bosnie.
Bah, eux aussi, ils ont raté leur rentrée quelque part. Les Français doivent se contenter du match nul, un but partout. Ils ont même terminé à 10 après l'expulsion de Jules Koundé. Et puis un mot quand même de Cristiano Ronaldo qui continue à 36 ans d'affoler les compteurs. Il devient le meilleur buteur de l'histoire en sélection, toutes sélections confondues, avec son 11 buts. Il a inscrit un doublé hier soir lors de la victoire du Portugal 2-1 contre l'Irlande.
111 buts, magnifique, faudrait s'arrêter là.
Ouais, c'est joli, non?
Je pense qu'il en mettra quelques autres encore.
Il y a des chances.
Merci Christophe Lamar, vous revenez tout à l'heure à 8h30.